Nous allons voir aujourd'hui donc la figure de la Vierge Marie dans la foi catholique, la place qu'a la Vierge Marie dans la vie des croyants, dans la vie de l'Église. Et que nous dit l'Église, que nous dit l'Écriture sur la Vierge Marie? Je voudrais commencer par un texte de la Genèse, entendre l'Écriture dans la Genèse au chapitre 3 du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit, « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ? » Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » À la femme il dit, « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari. À lui dominera sur toi. » À l'homme, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu fus tiré, car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. » L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau, et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. » Et le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Alors, cet épisode de l'Écriture dans le livre de la Genèse au chapitre 3 est assez mystérieux, mais nous dit quelque chose de profond sur la nature humaine. Et quel est le lien avec la Vierge Marie? C'est parce que la dévotion, la prière à la Vierge Marie n'est pas une prière simplement comme à d'autres saints, c'est une prière fondamentale dans la piété chrétienne. Et ça a à voir à quelque chose avec notre condition humaine. Il y a un lien. Notre condition humaine, elle est abîmée par le péché. Adam et Ève, nos premiers parents, font l'expérience d'être tentés par le serpent, c'est-à-dire d'être tentés par le démon. Le péché est entré dans le monde par un acte libre, nous dit l'Église, une volonté personnelle d'un homme. Et en même temps, cette volonté personnelle d'un homme a été trompée par le tentateur. D'ailleurs, il commence à tenter Adam et Ève, le serpent, en les trompant. « Pas du tout, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. » Mensonge. Donc, il fait mentir la parole de Dieu de manière à faire un mauvais discernement d'Adam et Ève qui vont eux-mêmes provoquer un péché. Ce péché va avoir des perturbations pour eux dans leur relation à Dieu et dans leur relation aux autres. Dans leur relation à Dieu d'abord, on voit que quand ils ont goûté le fruit de l'arbre, ils découvrent qu'ils sont nus. Donc ils se connaissent tels qu'ils sont, limités. Avant, ils en ont moins conscience de cela. Et Dieu vient les voir et ils se cachent parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont peur parce qu'ils ont une conception de Dieu qui du coup est erronée. Ils ont peur de Dieu. Et nous sommes dans cette logique-là, nous sommes marqués par cela. Beaucoup de nos contemporains et nous-mêmes avons peur de Dieu. C'est un peur fouettard. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet le mal? Donc Dieu n'est pas bon, etc., etc., etc. Fausse conception de Dieu, marquée par quoi? Le péché des origines. C'est quoi le péché des origines? C'est un acte libre, fait par une personne humaine, qui a entraîné un manque de grâce. On va voir ce que c'est. Et quelque part, nous sommes dans ce même état des péchés des origines, nous sommes des pécheurs. Ça ne veut pas dire que nous avons fait nous-mêmes le péché des origines, mais en nous, il y a un manque à faire le bien et il y a une facilité à faire le mal. C'est ce que dirait saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » En nous, le cœur est abîmé au niveau relationnel, au niveau personnel, nous allons le voir, et au niveau à Dieu. Et un premier impact sur Dieu, c'est que nous ne le connaissons pas tel qu'il est lui-même et nous projetons des choses sur Dieu et Adam et Ève, d'un coup, ont peur de Dieu à la suite de cela. Profondément, Adam et Ève, avant cet acte-là de péché qui provoqua le péché originel, qui est une carence de grâce, une carence à vivre selon Dieu. Adam et Ève vivaient en présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église nous enseigne que Adam et Ève n'étaient pas immortels. Ils étaient comme vous et moi, finis. Mais ils ne devaient pas mourir, à la différence de vous et moi. C'est-à-dire que Dieu aurait permis, parce qu'il les faisait vivre dans sa grâce, dans son jardin d'Éden, dans sa plénitude de grâce, Adam et Ève auraient dû passer de la vie ici-bas à la vie du ciel sans mort. Parce que Dieu, par sa pure grâce, pouvait maintenir un être et le faire passer de manière d'une transition toute simple de la vie ici-bas à la vie du ciel. Or, par le péché, par l'acte, la faute d'un homme, est venu le péché. Et ce péché a perturbé l'être d'Adam et Ève, leur relation à Dieu, et jusqu'à leur condition humaine, ce qui fait qu'ils ont perdu la grâce originelle. Et ainsi, Dieu n'est plus devenu évident. On va voir que ça a eu des conséquences sur eux-mêmes, sur leur relation aux autres. Et l'ultime conséquence, c'est qu'ils ont été, à ce moment-là, laissés à leur nature limitée, sans la grâce. Et laissés à la nature limitée, on meurt. Et ainsi, la mort est rentrée dans le monde. L'être humain, qui était fini, a été laissé à sa finitude, et maintenant il peut mourir. Et nous comprenons pourquoi, à ce moment-là, profondément, même si nous savons biologiquement que nous mourrons, au fond de nous-mêmes, la mort est toujours un scandale. Nous ne sommes pas un poisson rouge qui vit, et puis après il meurt, basta, il ne se pose pas la question qu'il va mourir. Nous, c'est toujours une souffrance de nous préparer à mourir. Parce qu'en nous, il y a comme un résidu de cette histoire de Dieu qui ne voulait pas que l'homme meure. Voyez ? Donc on est marqué par cette tension. On est marqué par cette tension et le Christ, nous allons voir, c'est celui justement qui a vaincu la mort, qui jusqu'au bout a cassé les conséquences du péché des origines, jusqu'à faire de la mort non plus la fin, mais la naissance à la vie. Et nous allons voir la place de la Vierge Marie. Les perturbations, mauvaise connaissance de Dieu, Il n'y a plus la capacité d'être dans l'intimité de Dieu, c'est-à-dire ils ne sont plus dans la grâce, ils sont exclus du jardin des origines. Et se passera, le texte dit, la parole de Dieu, l'Écriture nous dit, que l'homme dominera sur la femme et qu'il y aura des jalousies. Et qu'on voit au chapitre 4, leur enfant, ça va être pire encore, Caïn et Abel, Caïn va tuer Abel. Donc la rivalité est telle qu'on tue. Donc là, vous avez tout, la déclinaison des péchés qui apparaît à la suite de cet acte qui fait perdre la grâce originelle. Du coup, l'être humain, on peut dire, il est perturbé en lui-même aussi, pas simplement vis-à-vis de Dieu et de perdre la grâce et l'intimité avec Dieu et connaître Dieu tel qu'il est, il va falloir qu'il soit rééduqué, mais il est aussi, il a perdu la grâce en lui-même. Ce n'est plus la vie spirituelle qui prédomine sur l'intelligence, qui prédomine elle-même sur le corps et les passions, c'est les passions qui prédominent sur l'intelligence et sur la vie spirituelle. Et l'homme est tout déréglé. Et il nous faut un processus de guérison pour régler ça. C'est ce qu'on appelle, avec la grâce de Dieu, l'ascèse chrétienne. Nous faire un retravail, un des dons du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Il faut retravailler pour, quelque part, rééquilibrer l'être humain qui n'est pas équilibré, qui convoite des biens qui sont désordonnés, qui ne sont plus le bien suprême, mais des biens seconds, et tout est dans le désordre. Par exemple, on ne s'intéresse pas autant à son salut qu'on s'intéresse, et moi le premier, à manger un Big Mac. C'est bien de manger un Big Mac, un hamburger, mais ça ne doit pas être le premier par rapport au salut. Et on voit que l'être humain, il ne met pas les choses dans l'ordre, parce que quelque part, le spirituel, l'intellectuel et le physique sont mal ordonnés, sont désordonnés, parce que la grâce originelle qui a été perdue a fait une perturbation même dans son être. Ça va ? Et du coup, ça a une conséquence dans sa relation aux autres. Dans sa relation aux autres, l'être humain est dans la rivalité, dans le pouvoir, dans la domination. Et là, nous voyons les conséquences du péché des origines. Perdre de l'intimité divine et de la connaissance du vrai Dieu tel qu'il est et non tel qu'on le projette et qu'il n'est pas. Un professeur de morale disait « Nous devons être athées du Dieu des athées » parce que c'est une projection qui n'est pas Dieu. Mais nous devons reconnaître qui est le vrai Dieu, qui n'est pas tel que nous le pensons bien souvent. On ne connaît pas Dieu. On est perturbé en nous-mêmes et il y a un processus de guérison qui devra se faire à tous les niveaux de notre être. Jusqu'au jour de notre résurrection dans le Christ, où là, quelque part, on aura été totalement guéri, parce que corps et âme nous seront à nouveau glorieux, unifiés. Donc c'est un processus de toute une vie. Et dans nos relations les uns aux autres, d'où la vie de charité, d'où la vie ecclésiale, qui a pour but de nous guérir de ce qui a été abîmé au péché des origines. Vous voyez, quelle est la place de la Vierge Marie dans tout ça? Celui qui guérit, c'est le Christ. Celui qui guérit, c'est le Christ. Il est le vrai Dieu et le vrai homme. Il est Dieu fait homme, c'est-à-dire il est Dieu qui a pris une condition d'homme, et en prenant une condition d'homme, il a assaini la condition humaine. Il nous montre exactement comment on vit dans la grâce de Dieu, comment toutes les zones de l'être sont hiérarchisées, à la fois en Dieu, en nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et quelle est donc la place de la Vierge Marie? C'est elle qui donne le Sauveur, c'est elle qui donne le vrai homme, c'est elle qui va donner le guérisseur, c'est elle qui donne le Messie. Et la Vierge Marie est annoncée déjà dès le chapitre de la Genèse 3. Les pères de l'Église parlent d'un proto-évangile, c'est-à-dire un évangile primordial. Le Seigneur dit cela dans l'Écriture, au chapitre 3, versets 15 et suivants. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Ce verset-là, les pères de l'Église ont vu, et l'exégèse contemporaine, selon Jean-Paul II, nous dit qu'il ne s'agit pas simplement d'Ève, la mère des vivants, on va y revenir. Il ne s'agit pas simplement d'Ève, cette femme-là, mais une femme qui annonce, c'est un mot, la femme, pour annoncer l'ère de quelqu'un, une autre femme, en son temps, qui va mener un combat contre le serpent. Et quelque part, en menant un combat contre le serpent, il y aura un combat contre celui qui a provoqué la chute de l'homme, et donc contre la dégradation de l'homme. Et donc, quelque part, c'est une promesse que l'homme va retrouver en son temps la condition des origines qu'il a perdue. Et c'est pour ça, ce verset annonce la promesse de Dieu du salut, qui va passer. Laissez-moi vous lire quelques passages de la catéchèse de Jean-Paul II, qu'il a fait dans les années 90, et de citer justement quelques commentaires là-dessus, on va le citer plusieurs fois Jean-Paul II, sur le proto-évangile. Il dit, parmi les paroles bibliques qui ont annoncé la mère du Rédempteur, le Concile cite avec toutes celles par lesquelles Dieu, après la chute d'Adam et Ève, révèle son plan salvifique, son plan de salut, le Seigneur dit au serpent, figure de l'esprit du mal, figure du malin, figure du démon. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Et Jean-Paul II de continuer. De telles expressions appelées par la tradition chrétienne dès le XVIe siècle, proto-évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, laissent percevoir la volonté salvifique, la volonté de salut, de Dieu dès les origines de l'humanité. En effet, selon le récit de l'auteur saint, donc l'écrivain sacré qui a écrit la Genèse, face au péché, la première réaction du Seigneur n'est pas celle de punir les coupables. La première réaction du Seigneur, nous dit Jean-Paul II, n'est pas celle de punir les coupables. Vous voyez, mauvaise connaissance de Dieu. Mais de leur ouvrir une perspective de salut et de les faire participer activement à l'œuvre de la rédemption. De leur ouvrir une perspective de salut et de leur faire participer activement à l'œuvre de la rédemption, montrant ainsi sa grande générosité, même envers ceux qui l'avaient offensé. Dès le début, le Seigneur a un plan de salut qui va prendre des siècles. Mais dès le départ, il a un plan de salut. Et il va organiser ce plan de salut durant toute la Bible. Durant toute l'Écriture, il va organiser ce plan de salut. Alors vous voyez, la figure de la femme dans la Bible est importante. On a des figures de femmes, on a Sarah qui était stérile, on a Anne qui était stérile, et Sarah va être visitée par le Seigneur, et le Seigneur dira à son mari qu'elle enfantera un fils. Et on dit qu'elle a ri parce qu'il n'y a pas cru. Et que la stérilité, dans l'Écriture, c'était un signe de non-fécondité, donc de non-bénédiction, donc en gros d'être maudit par Dieu. Dieu ne veut pas de moi, et ce n'était pas possible. Et donc c'était très important pour une femme et pour un homme d'avoir des enfants. Or Dieu va donner, va intervenir dans l'histoire de Sarah pour donner un fils. Voilà. C'est une première intervention de Dieu. Et ce qu'il avait promis un an avant, il exauça. On va revenir sur cette idée d'une femme, il exauce la promesse qu'il a dite. Il a la même chose dans le premier livre de Samuel, où Anne pleure dans le temple. Au chapitre 1, si je ne me trompe pas, Anne pleure dans le temple et elle demande à Dieu un fils. Et finalement, Dieu va lui accorder un fils et elle donnera ce fils, elle le consacrera à Dieu et Samuel va devenir le prophète Samuel. C'est lui qui donnera l'onction au roi Saül et au roi David. Donc voilà, et on voit qu'à la fin, elle rend grâce au Seigneur. Il y a le cantique d'Anne dans l'Ancien Testament qui ressemble assez, de manière surprenante, au cantique du Magnificat dans le Nouveau Testament en Luc 2. Pour vous montrer, ou en Luc 1, excusez-moi, pour vous montrer à quel point il y a des liens. Et donc Dieu exauce à nouveau la prière de cette femme et il accomplit une promesse. Or, avec le temps, la figure féminine va s'approfondir dans la Bible. Et on va s'approfondir telle de manière, c'est que c'est le peuple lui-même qui attend une promesse. Et c'est le peuple lui-même qui veut une fécondité. Et c'est le peuple lui-même qui attend l'objet de la promesse qui est le Messie. Et ça va s'incarner de manière concrète dans la femme par excellence, Marie. Je dis la femme par excellence, Marie, parce que nous allons voir, elle est préservée du péché. Elle est la figure féminine par excellence. Et le Christ à la croix ne dira pas Marie, dira femme. Vous voyez, la dimension de la femme, au sens fort du terme. Et Marie, quelque part, elle est l'objet de la bénédiction, elle est l'objet de l'accomplissement de la promesse. Dieu avait promis au proto-évangile, en Genèse 3, qu'il trouverait un moyen. Il a préparé le terrain dans la fidélité à Dieu, reconstruction de l'image de Dieu avec tout l'Ancien Testament, les prophètes. Et en son temps, il donne le Messie, celui qui va pouvoir guérir tout l'homme, dans sa relation à Dieu parfaitement, en lui-même et dans sa relation aux autres. Et il le fait par la femme. Il le fait par Marie. Marie qui, comme les Juives, attendait le Messie, priait pour le Messie. Et donc, vous voyez l'importance de Marie. Et Marie, du coup, est là, nous dit l'Église, la nouvelle Ève. C'est-à-dire, le texte, l'Écriture nous dit que Ève a été appelée Ève parce qu'elle est la mère des vivants. La nouvelle Ève, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle est vraiment la mère des vivants. Elle devient la mère qui enfante à la vie divine, qui enfante en elle Jésus, qui est la vie divine, et Jésus nous guérit. Elle enfante le guérisseur, celui qui reconstruit notre être. C'est la mère des vivants. Et donc voyons, je vais citer un passage pour commencer à méditer sur la Vierge Marie. En Luc chapitre 1, si je me souviens bien, Luc chapitre 1, verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Vous voyez, Élisabeth, la cousine de Marie, qui va enfanter Jean-Baptiste, qui sera le cousin de 6 mois d'avance sur Jésus, c'est exactement comme Anne, c'est exactement comme Sarah. Dieu accomplit une promesse particulière. Mais il accomplit une promesse plus forte en Marie, parce que déjà, un, Marie n'était pas stérile, mais deux, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas simplement un enfant pour une famille, c'est un enfant pour tout le peuple de Dieu, pour l'humanité, c'est le Sauveur. Alors, on va s'arrêter un petit peu maintenant sur cette parole que dit l'ange, qui est importante. La première chose, c'est l'ange dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Nous verrons tout à l'heure que cette parole a été reprise dans la piété populaire du « Je vous salue Marie, comblée de grâce ». C'est le tout début du chapelet. Et c'est la parole que dit l'ange à Marie. « Je te salue, Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce ». En grec, « comblée de grâce »,« kekarito mene », ça veut dire, je ne suis pas helléniste, mais ça veut dire en gros qu'il est plein de la grâce de manière active. C'est-à-dire que la grâce est sature en Marie. Elle est emplie entièrement de la grâce de Dieu. Il n'y a pas un gramme qui n'est pas dans la grâce de Dieu en elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons là, dans ce mot-là, à fleur de peau, ce qu'est l'Immaculée Conception. Marie est préservée du péché originel. Il n'y a pas de carence en elle de péché. Elle ne peut pas dire « je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire ». Elle n'a pas de carence en elle. Elle est parfaitement ordonnée au bien. En elle, tout est construit, spirituel, intellectuel, relationnel, affectif. Relation à Dieu parfaite, relation aux autres parfaite. Elle est immaculée. Dieu l'a préservée de ce péché. Dieu l'a préservée de cet état. Elle n'est pas pécheresse. Cette fois-là, l'Église l'a dogmatisé en 1854. Le pape Pie IX dit « La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur, préservée intacte de toute souillure du péché originel. » C'est en 1854. 4 ans plus tard, en 58, pour vous montrer que le Wi-Fi marche bien entre le ciel et la terre, en 54, on proclamait ce qu'on croyait de foi, comme un dogme sûr pour avoir une foi certaine et durée dans les siècles, dans la vérité de la foi. Le pape Pie IX fait cela. En 54, à Lourdes, Marie apparaît à une petite bergère et lui dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Elle va voir le prêtre de la paroisse qui lui dit, lui demande le nom de cette femme pour voir si c'est bien la Vierge Marie qui apparaît. Et la petite lui dit, elle m'a dit qu'elle s'appelait l'Immaculée Conception. Et le prêtre va être bluffé, parce que comment une petite bergère qui n'a pas fait d'études théologiques vient de proclamer un dogme que 4 ans avant on a annoncé. Et donc vous voyez, il y a une confirmation du ciel et de la terre pour vous montrer que quand l'Église proclame quelque chose, l'infaillibilité pontificale, elle s'est exercée là, à ce niveau-là, dans le dogme. Donc Marie, Immaculée Conception, c'est comblée de grâce, qui est caritoménée, c'est ce qu'annonçait l'ange. Donc préservée du péché des origines. Donc, parce que préservée du péché des origines, Marie est un sanctuaire saint, où le Très-Saint, le Très-Haut, va pouvoir venir. Et le Très-Haut va pouvoir venir en elle et y faire sa demeure et naître. Mais avant de cela, nous pouvons dire ce qui est important, c'est que nous allons devenir un jour comme Marie. Je crois que c'est le Père Kolb qui a dit cela, le Christ, notre amour, notre Sauveur, notre Rédempteur, Dieu, nous l'aimons, notre amour. Marie, notre espérance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Christ, notre amour, Jésus, notre amour, Marie, notre espérance. Marie, notre espérance, parce que Marie est la figure de l'être humain rénové dans la grâce. Et nous allons devenir comme elle. Nous allons devenir des êtres humains rénovés dans la grâce. C'est-à-dire saints et immaculés devant Dieu. Et vous trouvez cela en Éphésiens 1, verset 4. Permettez-moi de vous le lire, si je le trouve. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saints et irréprochables sous son regard. Dans une autre traduction biblique, on dit saints et immaculés. Donc là, on a effectivement notre vocation. Et nous voyons en Marie notre vocation, c'est-à-dire d'être saints et immaculés. Elle, c'est depuis sa naissance, nous allons de le venir par sanctification par le Christ jusqu'au ciel. Au ciel, on est saints et immaculés. Donc Marie, notre joie, notre espérance. Donc Marie, c'est vraiment le modèle de la sainteté de l'Église. Quand nous voyons Marie, nous la mettons à un cran au-dessus des autres saints. Le culte à Marie est un culte au-dessus des autres saints, parce que c'est un culte à la sainteté, à l'Immaculée, un cadeau fait particulier, et nous allons voir aussi à la Mère de Dieu. Marie est Mère de Dieu. Alors, on continue le texte. Il nous est dit que Marie a enfanté sans une action humaine. Comment se fait-il ? Comment cela est-il possible puisque je suis vierge ? Et il est intéressant d'approfondir le texte et de voir en fait que Marie elle-même désirait la virginité. C'est le pape Jean-Paul II qui nous l'enseigne dans une catéchèse. Marie elle-même désirait la virginité. Ça paraît étonnant. De le plus tendre enfance, elle désirait la virginité. Elle voulait se consacrer totalement à Dieu. Et Dieu va exaucer son désir en enfantant en elle, de manière surnaturelle, un fils, nous dit Jean-Paul II. Je vais essayer de retrouver le passage. Il dit, Jean-Paul II, dans sa catéchèse du 24 juillet 1996, « Sa volonté de virginité, fruit de l'amour pour le Seigneur, semble donc constituer un obstacle à la maternité annoncée. » Ben oui, parce qu'elle se dit « je vais enfanter, mais comment se fait-il puisque je suis vierge ?» Et dans le « je suis vierge », »,« je veux le rester ». En mentionnant cette difficulté, nous dit le pape, Marie, loin de s'opposer au projet divin, manifeste l'intention d'y répondre pleinement. Du reste, la jeune fille de Nazareth a toujours vécu en totale harmonie avec la volonté divine. Elle est Immaculée Conception. Et elle a choisi une vie virginale dans le but de plaire au Seigneur. En réalité, sa volonté de virginité l'a disposée à accueillir la volonté divine de tout son moi humain féminin. Et cette réponse de la foi comportait une coopération parfaite avec la grâce prévenante et secourable de Dieu et une disponibilité parfaite à l'action du Seigneur. Donc on voit que Marie, complètement donnée à Dieu, de corps et d'âme, et qui voulait le rester, était dans une attitude de pouvoir recevoir ce que le Seigneur voulait faire en elle. Et le Seigneur va amplifier son désir de virginité, puisqu'on va l'appeler la Vierge, au sens fort. Cette tradition de la Vierge, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose de nouveau. Et en Marie, ça prend une dimension exceptionnelle. C'est un titre de vénération, la Vierge, la Très Sainte Vierge. Et en fait, l'Église va définir la Vierge Marie comme Vierge perpétuellement. Quand vous avez des icônes sur la Vierge Marie, on n'en a pas ici, vous avez 3 étoiles. Vous en avez déjà vu trois étoiles sur la tête et sur les épaules. Ces trois étoiles veulent dire vierge avant, pendant et après la conception. C'est la vierge avant la naissance du Christ, pendant la naissance du Christ et après la naissance du Christ. Pourquoi ? Parce qu'elle constitue dans la foi un vase clos qui est gardé pour Dieu, donc une foi intacte, inébranlable, de foi, d'espérance et de charité. C'est le sanctuaire très saint de Dieu. Marie constitue le petit reste d'Israël qui n'a jamais douté des promesses de son Seigneur. Elle est la porte-parole de ce qu'il y a de plus beau d'Israël. Elle est la mère des vivants. Donc on dit qu'elle est la toute vierge. Et nos frères orthodoxes la vénèrent comme la toute vierge. Et parce qu'elle est la toute vierge, parce qu'elle est immaculée et consacrée à Dieu, Dieu l'a choisie pour être la mère de son Fils de manière surnaturelle. Dans les premiers temps du christianisme, on ne s'est pas d'abord intéressé à la naissance de Jésus. On s'est intéressé au mystère pascal, sa mort et sa résurrection. C'est ça le cœur de la foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Mais parce que le Christ, à un moment donné, ressuscité, il a fallu connaître toute son histoire, connaître tout ce qu'il avait dit à ses apôtres. Les apôtres et d'autres auteurs sacrés ont co-signé par écrit, et on s'est intéressé à la naissance de ce Fils de Dieu. Et de fait, parce qu'il est Dieu, il ne pouvait avoir qu'une naissance surnaturelle. Comme il le dit en Luc, je dois être dans la maison de mon père, en chapitre 2. Sous-entendu devant Joseph, qui pour le coup en prend un coup, il n'est pas son vrai père au sens fort du terme, son père adoptif, mais le seul père que Jésus a, c'est le Père éternel. Vous voyez, cette affirmation de la naissance de Jésus surnaturelle dans le sein de Marie par l'action du Saint-Esprit, c'est une proclamation de la divinité du Christ, qui n'a pas d'autre père que le Père éternel. Donc c'est très important pour nous. Et on pourrait se dire, mais biologiquement, ça ne marche pas. Absolument. Mais il faudrait se rappeler ce qu'on a dit avant, que Dieu est souverain maître des lois physiques. Dieu crée les lois physiques, il s'en sert et normalement il ne les violente pas, tout à fait. Mais quand il veut, et comme il veut, et pour quelque raison qu'il soit, il peut les violenter, non pas les violenter, mais les sublimer. On a ça dans les miracles, on a ça dans l'Eucharistie, qui soit dit en passant, est un miracle encore plus grand que l'incarnation. Parce que faire du pain Dieu, mort et ressuscité en direct, ça nous paraît encore plus grand. Et si nous croyons en cela, il n'y a pas de problème à croire à l'Annonciation. Vous voyez ? Tout est lié. Dieu, là on a une démonstration de la toute-puissance divine en l'action de Marie, qui était complètement consacrée à Dieu. Et du coup, l'Église dit que Marie est devenue la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu. C'est le dogme le plus important que nous fêtons le 1er janvier. C'est pour ça que nous verrons, par exemple, le soir du 1er de l'an, la veille du 1er de l'an, nous allons rentrer dans la nouvelle année, nous prierons de fait en passant par la mère de Dieu, la Théotokos. Pourquoi on dit que Marie est la mère de Dieu ? Marie est la mère de Dieu, c'est vrai, c'est pas vrai ? C'est vrai, mais il faut bien le comprendre, parce qu'on pourrait le comprendre de mauvaise manière. Dieu n'a pas de mère. Dieu a toujours existé et Marie est une créature. Donc Dieu n'a pas de mère. Point barre. Mais Marie est mère de Jésus, selon son humanité. Jésus a les traits, le visage, les expressions de Marie. C'est beau à penser ça. Quelqu'un qui regarde Marie voit Jésus. Parce que Jésus a les traits de Marie. Et Marie est mère de Dieu parce qu'une fois que Jésus s'est incarné, on ne peut pas saucissonner la personne. Il est à la fois personne humaine et personne divine. Donc il y a un tout en Jésus. Il est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Et comme Marie est mère de l'humanité de Jésus et que c'est un tout, on dit que c'est le Verbe qui s'est incarné en elle et que Dieu a voulu avoir une mère. Donc elle est devenue mère de Dieu au complet. Et donc c'est très fort, ça veut dire que Marie a des prérogatives sur Dieu. Non pas en termes de totalité, mais parce que Dieu, quand il nous dit dans le décalogue « Tu honoreras ton père et ta mère », il est le premier à honorer sa mère qui s'est choisie. Je crois qu'un père de l'Église dit ça. « Ô créature, tu as enfanté ton créateur. » C'est beau, hein ? Mais c'est ça. Marie a enfanté son créateur. Elle est devenue la mère de Dieu. La Théotokos. Et donc, du coup, on voit que la prière de Marie, les intentions de Marie, qui sont toujours orientées, parce qu'immaculées, vers le dessein de Dieu, vers le but de Dieu, ils plaisent au Créateur et le Créateur les entend. Et nous avons l'exemple de la Vierge Marie à Cana, en Jean 2, quand Marie va intercéder auprès des serviteurs en disant « Ils n'ont plus de vin. » Jésus dit à ce moment-là, femme, à nouveau, la femme, la vraie femme. Femme, mon heure n'est pas venue, mais toujours est-il, il va exaucer sa prière à la suite du récit. Donc on voit que l'intercession de Marie est forte, parce que c'est l'intercession de la Mère de Dieu qui connaît la pensée de Dieu, et qui, parce que c'est sa mère, Dieu la respecte. Et c'est pour ça que nous disons, Sainte Marie, Mère de Dieu, à la fin du chapelet, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle est la Mère de Dieu, elle est vierge, toujours vierge, elle a donc une foi inébranlable, inaltérable, et elle est devenue la Mère des hommes. La Mère de Dieu n'est pas simplement devenue la Mère de Jésus, mais elle est devenue la Mère de tous les disciples chrétiens. Et nous allons voir aussi la Mère de l'Église. Pourquoi elle est la Mère de tous les hommes? Vous avez ça en Jean 19, Jean chapitre 19, où à la croix, Jésus dira « Femme, voici ton fils avant de mourir. Fils, voici ta mère. » J'insiste pour dire, il le dit dans cet ordre et non l'inverse. Il ne dit pas « Fils, voici ta mère » et « Femme, voici ton fils ». Il dit d'abord « Femme, voici ton fils ». Et il donna et confia Marie au disciple bien-aimé Jésus. Parce que de fait, Marie n'a pas eu d'autre enfant. Et même quand nous parlons des frères et des sœurs de Jésus au langage biblique, ça ne veut pas dire au niveau biologique. C'est une vision juive beaucoup plus large de la conception de la fraternité. Marie n'a pas eu d'autre frère et sœur, enfin, n'a pas eu d'autre enfant, sinon Jésus n'aurait pas eu besoin de confier à Jean sa mère, il aurait confié à ses frères et sœurs. Et on sous-entend aussi qu'à la croix, Joseph était déjà mort, sinon il aurait confié Marie à son père. Voyez ? Donc Marie n'a pas d'enfant biologique autre que Jésus. Elle est toujours vierge. Et donc, Jean le reçoit, Marie. Mais dans la figure du disciple bien-aimé, qui est reconnu comme étant Jean, l'Église y reconnaît aussi tout disciple bien-aimé, c'est-à-dire tout chrétien qui se fait le disciple du Christ. Donc à chacun le Christ dit, voici ta mère. Et femme, voici ton fils, voici ta fille. Donc ça veut dire qu'à la croix, là où Jésus remet l'Esprit, c'est-à-dire où il pardonne les péchés et où il va donner l'Esprit qui va guérir l'humanité, guérir chacun notre humanité blessée dans la connexion avec Dieu, notre rapport humain en nous-mêmes et nos rapports aux autres, Jésus va donner Marie comme mère. Et nous voyons là que Marie va exercer sa maternité divine. Elle va devenir la mère des hommes. Elle va devenir la mère des hommes et la mère de la grâce. C'est-à-dire la grâce de Jésus va aussi passer par Marie. Et vous avez ça à la rue du Bac, avec la médaille miraculeuse, où vous voyez Marie qui a des rayons qui sortent de ses mains. Elle dit elle-même, ce sont les grâces qu'on me demande. Et la sainte, qui a, Catherine Labouret, qui voyait les rayons, a remarqué que certains n'étaient pas bien brillants. Et lui dire, mais comment ça se fait qu'il y en a qui ne brillent pas tous? Et la Vierge de répondre, ça c'est les grâces qu'on oublie de me demander. Donc on voit là la maternité divine de Marie, qui aide à enfanter ce que Jésus a donné sur la croix. Et j'insiste pour revenir, femme voici ton fils d'abord et après fils voici ta mère. Parce que Marie n'attend pas que nous l'aimions pour nous aimer. Elle nous reçoit avant que nous-mêmes nous la recevons. Pour elle c'est clair, nous sommes ses enfants depuis le baptême, avant que nous la connaissions personnellement, avant que nous commencions à la rencontrer. Donc c'est très important, celui qui va vers le Christ, à un moment donné dans sa vie spirituelle, il doit pouvoir entendre le Christ qui lui dit à la croix, Clotilde, Mathilde, François, Jean, Jean-Marie, Philippine, voici ta mère. Reçois ta mère, qui est ma mère. Reçois la Vierge Marie. Et il doit pouvoir entendre aussi qu'avant, dans la foi, Jésus a dit à sa mère, voici Philippine, voici Mathilde, voici Jean-Marie, voici François, voici ton fils. Donc Marie nous aime avant que nous l'aimions. Et en même temps, qui va à Marie, va au Christ, de manière la plus sécurisée, nous dirait Louis-Marie Grimontfort, de manière la plus sûre, parce que Marie est l'Immaculée. Marie est la Mère de Dieu. Celui qui veut être enfanté à la vie divine, en priant Marie, sera enfanté comme Jésus en son sein. Parce que la maternité divine, nous dit l'Église, ne l'a pas refermée sur elle-même. Marie, ce n'est pas parce qu'elle est montée au ciel qu'elle est restée dans le ciel. Plus elle est au ciel, plus elle est proche de Dieu, au-dessus des anges même. La créature est au-dessus des créatures plus parfaites qu'elle. La créature humaine est plus parfaite que les créatures spirituelles, les anges, ce qui n'est pas le cas normalement dans l'ordre des choses. Mais là, c'est le cas, Marie est devenue reine des anges. Et parce qu'elle est toute près de Dieu, en tant que mère de Dieu, elle est la plus proche de nous. Celui qui est le plus proche de Dieu n'est pas le plus loin de nous, mais le plus proche de nous. C'est un mystère. Voilà. Donc Marie, mère de Dieu, très proche de nous. Marie est devenue mère de l'Église. Dans le Concile Vatican II, vous avez 8 chapitres. Voilà, ne retenez pas ça, mais le Concile Vatican II, la déclaration sur l'Église, qu'on appelle Lumen Gentium, la lumière des peuples, qui parle du Christ et du mystère de l'Église. Le dernier chapitre, c'est la Vierge Marie. Ça veut dire au début, vous avez le peuple de Dieu, vous avez l'hiérarchie de l'Église, vous avez l'apostolat des laïcs, vous avez la sainteté, les religieux, etc., l'eschatologie. Et puis le dernier chapitre, c'est la Vierge Marie. Le 8e chapitre. Parce que Marie est la figure de tous les croyants. Marie est notre espérance. Toute l'Église qui s'est constituée va vers la fin, c'est-à-dire être saint et immaculé. Vous vous souvenez, Éphésiens 5. C'est-à-dire aller comme Marie. Marie est notre modèle. C'est le modèle des croyants de l'Église. C'est le modèle de l'Église tout court qui prie, qui intercède, qui rend grâce, qui offre sa vie, qui se sacrifie pour les autres. Et le pape Paul VI, lors du Concile Vatican II, l'a appelée d'un nouveau terme, Marie, mère de l'Église. Et nous voyons quelque part ce que la Genèse avait dit dans le proto-évangile, qu'une femme écrasera, broyera au talon le serpent, le démon, le combat spirituel, que souvent est représenté sous les nuages sous un globe. Vous avez le serpent qui est écrasé par la Vierge Marie. Peut-être qu'il y a des représentations, vous verrez ça. Ok ? Vous retrouvez ça dans Apocalypse 12, une femme qui se bat contre le dragon. Cette femme qui se bat contre le dragon, c'est une figure de la Vierge Marie. C'est elle qui préparera l'avènement du Christ dans les derniers temps. Vous voyez, la foi de l'Église, c'est à la fois pour nous une renaissance divine en Marie. Vraiment, elle nous aide à être enfantée comme Jésus. C'est la mère de l'Église, la figure des croyants. C'est la nouvelle Ève et c'est elle qui préparera l'avènement du Christ aux derniers temps. Alors, quelques éléments sur la dévotion populaire. La dévotion populaire, elle est vraiment à respecter parce que ce n'est pas à négliger. Le pape François nous y invite beaucoup, par exemple, à prier la Vierge qui défait les nœuds. Le pape Jean-Paul II nous avait invité à prier le chapelet. Je vais vous dire quelques éléments. Priez le chapelet, la médaille miraculeuse, le scapulaire. Voilà. Et le premier samedi du mois. La dévotion chrétienne propose que le premier samedi du mois, nous prions de manière particulière la Vierge Marie. C'est ce qu'elle avait par exemple proposé à Fatima, mais c'est ce qu'elle a proposé partout. Et sur la paroisse, nous reconsacrons la paroisse à la Vierge Marie tous les samedis. Et on peut y penser de manière particulière le premier samedi du mois, comme le premier vendredi du mois, c'est le jour du cœur de Jésus. Le chapelet, c'est une prière qui est médiévale, qui est composée à la fois de la salutation angélique, « Je vous salue Marie, comblée de grâce », on se rappelle de l'ange, qui est composé aussi en partie de la salutation d'Élisabeth à Marie. « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. » Et qui est composé de la piété chrétienne, « Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » À notre mort, parce que Marie prépare les âmes à mourir. J'en ai pas parlé, mais en 50, le pape Pie XII va proclamer Marie, l'Assomption de Marie. J'en ai pas parlé, mais c'est important, on peut en parler maintenant. C'est-à-dire que Marie est montée au ciel, corps et âme. C'est le seul être humain à être au ciel, corps et âme. Et Jésus, parce qu'il s'est fait homme. Tous les autres, ils sont que âme. Ils attendent la résurrection des corps. Marie est montée au ciel, corps et âme. Ça a été proclamé dans la foi en 1950 par le pape Pie XII. C'est le quatrième mystère glorieux. Après la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, nous avons l'Assomption de Marie. Distinction entre ascension et assomption, j'aime bien faire ça, c'est de la mécanique. Il y en a un qui est autopropulsé, il y en a un qui est tracté. Le Christ monte parce qu'il est Dieu au ciel. C'est l'ascension. Il le fait en union au Père et au Saint-Esprit. La Vierge Marie n'est pas Dieu, elle reçoit tout de Dieu. Elle monte par la grâce de Dieu. C'est l'Assomption. Traction. Ok ? Et puis vous avez un dernier mystère du rosaire qui est le couronnement de Marie. Vous voyez, la reine, Marie reine. Vous retrouvez ça sur les représentations de Marie qui reçoit la couronne du Père, je crois que c'est là, voilà, sur ce vitrail. C'est-à-dire, c'est l'action de Dieu par la prière de Marie. la domination de Dieu par la prière de Marie, c'est-à-dire l'avènement de Jésus dans les cœurs par la prière de Marie. C'est à nouveau Apocalypse 12. Voilà. Donc la prière du rosaire, du chapelet, ça consiste à prier, à nous focaliser sur Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus. Vous vous souvenez, le nom de Jésus. Et on médite un fait de Jésus. Sa vie, sa jeunesse, son âge adulte, sa passion, sa résurrection. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais on le fait en présence de Marie. C'est-à-dire que nous prions dans la prière de Marie. Nous contemplons dans la contemplation de Marie. Et petit à petit, nous nous familiarisons à avoir les sentiments de Marie pour Jésus. Voilà. La médaille, donc je vous invite à prier le chapelet. Le pape a écrit une belle lettre, Jean-Paul II, Rosarum Virginis, qui explique le chapelet. La médaille miraculeuse qui peut être proposée à chacun, dont Mère Teresa et Maximilien Kolb ont été les deux grands promoteurs au siècle passé. Maximilien Kolb appelait ça ses cartouches, parce qu'il avait un langage militaire. Il appelait ça ses cartouches, les médailles. Ça consistait à donner des cartouches pour que les gens se convertissent. Et donc les médailles miraculeuses, qui représentent la Vierge intercestrice, la maternité divine, où Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, qui est datée de 1830, on voit les rayons, et de l'autre côté, on voit deux cœurs, un cœur avec une couronne d'épines et un cœur avec un glaive. Le cœur aux couronnes d'épines, c'est le cœur du Christ. Le cœur avec le glaive, c'est le cœur de Marie transpercé par la passion du Christ, qui avait été prophétisée par le prophète Siméon en Luc 2. Et toi, un glaive te transpercera le cœur. Tu vas participer à la passion du Christ. Et donc porter la médaille miraculeuse, c'est la seule médaille que la Vierge ait demandé qu'on porte. C'est quelque part avoir une protection de Marie. Ce n'est pas un gris-gris, mais celui qui a foi en la présence de Marie, qui la porte avec dévotion, Marie peut l'aider dans sa vie spirituelle et tout court. Et nombreux sont les saints qui ont été convertis par ça et qui ont cru à ça, dont le Père Kolb, dont Mère Teresa. Et puis il y a aussi d'autres spiritualités, comme la spiritualité carmélitaine, qui propose la dévotion au scapulaire, qui par exemple est attribué au scapulaire, le fameux privilège sabbatin, c'est-à-dire une semaine après sa mort, d'être délivré du purgatoire pour aller au ciel. C'est confirmé par Thérèse d'Avila, c'est confirmé par des grands saints. Donc on voit, la dévotion populaire est importante. Voilà, je m'arrête là.